Les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Afrique australe, 45 millions de personnes, un chiffre record. Tel est le nombre d'habitants de la sous-région menacée par la famine dans les pays d'Afrique australe en raison de la sécheresse, des inondations et des difficultés économiques dans leur pays. Une mise en garde lancée ce jeudi par les Nations Unies. Cette crise de la faim atteint des proportions jamais vues et nos observations sur le terrain montrent qu'elle va encore empirer, a averti dans un communiqué la responsable régionale du programme alimentaire mondial, Lola Castro. Depuis 5 ans maintenant, toute la pointe sud du continent africain souffre d'un important déficit de pluie qui affecte les récoltes agricoles de ces 16 pays, pour la plupart très pauvres. La querelle sur les eaux du Nil maintenant, l'Égypte a accepté mercredi de poursuivre à Washington les pourparlers sur le projet du barrage de la Renaissance en Éthiopie. C'est ce qu'a annoncé le ministère égyptien des Affaires étrangères. Le Caire craint que ce barrage construit par l'Éthiopie n'entraîne une réduction du débit du Nil bleu, fleuve dont l'Égypte dépend à plus de 90% pour son approvisionnement en eau. Les pourparlers dans la capitale américaine réunissent le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte. Idrissa Seloudia.
L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont esquissé mercredi un compromis au sujet d'un immense barrage sur le Nil qui suscite des tensions régionales depuis 9 ans. Ils se sont donné rendez-vous fin janvier à Washington pour surmonter les dernières divergences et finaliser un accord. Début novembre, sous la houlette des États-Unis et de la Banque mondiale, les 3 pays africains avaient fixé à ce mercredi la date butoir pour aboutir à un accord sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance voulu par Addis Abeba.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Nigeria, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a libéré 5 travailleurs humanitaires qu'il avait enlevés en décembre dans le nord-est du pays, région en proie à une sanglante insurrection djihadiste. Ces travailleurs locaux d'organisations humanitaires internationales avaient été kidnappés ainsi que plusieurs autres personnes dans 2 incidents séparés par des insurgés de ce groupe armé qui est une faction dissidente de Boko Haram. Les ravisseurs déguisés en soldats interceptaient des véhicules sur une route près de Maïdougouri, le chef-lieu de l'État de Borno. Et toujours concernant le combat anti-djihadiste dans le Sahel, le président français Emmanuel Macron et les chefs d'État des pays du G5 Sahel ont annoncé que la lutte contre le terrorisme dans la région allait désormais se concentrer sur le groupe État islamique au Grand Sahara. Ce groupe armé a été créé en 2015 par Abou Walid Adnan al-Sahraoui, ancien militant du Front Polisario, puis de la mouvance Al-Qaïda au Maghreb islamique, et membre du mouvement pour l'unicité de Dieu, qui avait pris le contrôle du Nord Mali en 2012. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint le journaliste, écrivain et spécialiste du terrorisme dans le Sahel, Seydik Abba.
On parle de 500 personnes au départ, puisque une dizaine de mouvements étaient fédérés dans l'État islamique au Grand Sahara sous la direction de Abou Walid al-Sahraoui. Et très vite, ce mouvement a fait du recrutement local, a pris une grande ampleur. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la puissance militaire, parce que il n'y a pas qu'au Niger et au Mali. L'État islamique a fait des opérations aussi au Burkina Faso et dans toute la sous-région. Aujourd'hui, sur la zone des 3 frontières qui concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est le mouvement terroriste le plus puissant, à la fois par la capacité et aussi parce qu'il est important de comprendre que lorsque l'État islamique a été défait en Irak et en Syrie, un certain nombre de combattants sont revenus et se sont infiltrés par la Libye pour rejoindre l'État islamique au Grand Sahara. C'est cette expertise-là qui explique aujourd'hui les grandes opérations militaires qui sont dignes des armées aguerries qui sont portées par l'État islamique au Grand Sahara contre le Niger, contre le Mali, sur cette zone des 3 frontières.
Et comment il parvient à se dissimuler avec toute la traque?
Dans la zone des 3 frontières, il y a une partie très arborisé, c'est pas la forêt dense, mais il y a une partie dans laquelle les mouvements djihadistes ont trouvé un repère, ont trouvé une sorte de sanctuaire. À partir de là, ces mouvements-là, parce que cette partie, il faut le dire pour le regretter, échappe au contrôle des 3 États. Les 3 États, le Niger, le Mali et le Burkina, n'ont pas les capacités opérationnelles, administratives, policières et militaires pour contrôler cette partie-là. La forêt de Krafan du côté du Niger, du côté du Mali dans la zone de Meneka en Songo, et c'est là qu'ils sont implantés, ils profitent de la faiblesse de ces États-là, de la faiblesse de leur capacité. Une colonne qui attaque quand même le camp de Inater et qui revient, elle ne passe pas inaperçue. Elle a parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Si on veut chercher les éléments de l'État islamique au Grand Sahara, ils ne sont pas dans la nature, ils ne sont pas cachés. Il faut avoir les moyens d'aller les chercher là où ils sont. Or, comme vous avez remarqué, aujourd'hui, c'est l'État islamique qui a l'initiative. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées maliennes. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées nigériennes. C'est l'État islamique qui attaque les forces armées burkinabè. Ce n'est pas ces forces qui vont attaquer l'État islamique dans son sanctuaire. Le sanctuaire existe, on le connaît. Maintenant, il faut avoir les capacités à la fois militaires et la décision politique pour aller les chercher dans leur nid. Ils ont un nid. Maintenant, il faut s'organiser pour aller les attaquer chez eux.
Vous parlez de la faiblesse des États, mais il y a Barkhane et aussi les Américains qui sont présents dans la région.
Les Américains, on ne connaît pas très bien leur agenda. Aujourd'hui, avec le sommet de Pau, ça a été officialisé. Ils apportent un appui aux forces françaises, un appui en logistique et un appui en renseignement. Mais par ailleurs, ils apportent aussi un appui en formation parce que les forces spéciales américaines forment les armées du Niger et du Mali. La force Barkhane lutte contre le terrorisme, mais elle a plus été accentuée dans le nord du Mali, dans la région de Kidal, autour de Tombouctou et autour de Gao, où ils ont une force de réaction rapide. Mais dans la zone des trois frontières, Barkhane n'est pas là. Elle a laissé cette partie de la zone des trois frontières aux armées nationales de ces trois pays.
Seydik Abba, journaliste, écrivain et spécialiste du terrorisme dans le Sahel.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, violence en Guinée. La France est particulièrement préoccupée par les violences politiques en Guinée, où le projet de troisième mandat prêté au président Alpha Condé est très contesté. Paris appelle à l'apaisement. Le point avec Ekia Badou.
Nous sommes particulièrement soucieux de la situation en Guinée. Nous appelons à l'apaisement, a déclaré Jean-Yves Le Drian pendant une audition devant la Commission des Affaires étrangères du Palais Bourbon. C'est la situation la plus sensible dans la région et l'engagement du président Alpha Condé à demander une réforme de la Constitution ne nous paraît pas être obligatoirement partagé ni par sa population ni par ses voisins, a-t-il souligné. L'opposition en Guinée est convaincue que le président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, entend se représenter fin 2020, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Monsieur Condé, 81 ans, a indiqué qu'il comptait soumettre aux Guinéens un projet de nouvelle Constitution, même s'il ne s'est pas exprimé sur ses intentions personnelles.
À noter que l'opposition guinéenne a annoncé mercredi une suspension de ses manifestations contre le projet attribué au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, et ce après 3 jours de protestation ayant fait au moins 3 morts. Par ailleurs, la campagne pour les élections législatives prévues le 16 février va débuter jeudi à minuit jusqu'au 14 février, selon un décret présidentiel lu mercredi soir sur les médias d'État. République démocratique du Congo, l'ONU se veut rassurante en RDC. La chef de la MONUSCO, la mission onusienne sur place, a exclu l'existence de tout projet de balkanisation du pays au moment où la classe politique congolaise se déchire sur ce sujet. Le point avec Anne Albertson.
Les Nations Unies ont balayé mercredi toute balkanisation de la République démocratique du Congo, où la peur d'un morcellement de l'unité nationale est de nouveau agitée par des responsables publics. Le Congo, dans ses frontières héritées de la colonisation, personne ne le conteste, a déclaré la patronne de la mission des Nations Unies au Congo, Leila Zerougui. La rhétorique d'une balkanisation de la RDC, orchestrée par le Rwanda, est très présente ces jours-ci dans le débat public, avec la persistance des violences dans l'Est du pays. L'opposant Martin Fayoulou a convoqué pour vendredi une marche à Kinshasa contre la balkanisation et les violences dans l'Est, marche interdite par les autorités.
Actualité américaine pour terminer. À Washington, la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis a transmis mercredi au Sénat les 2 articles de mise en accusation du président Donald Trump dans le cadre de la procédure d'impeachment qui vise le chef de l'exécutif américain. Le transfert ouvre la voie au procès de M. Trump devant la Chambre haute. Et bref, de fer commercial Washington-Pékin. En Chine, les médias officiels chinois ont salué ce jeudi la signature de l'accord commercial préliminaire arraché de haute lutte avec les États-Unis. Mais ils ont également averti que des incertitudes planent encore sur les relations bilatérales sino-américaines. Merci de votre attention.